Valréas, maman Simone. Bien qu'elle eût souffert de pouvoir chasser par instant la tentation noire d'en finir qui obsédait, bien qu'elle eût été blessée et dans son cœur altérée de tendresses heureuses et dans son orgueil de femme, bien que dans ses souvenirs, même sur les premiers moments où les lèvres ne montent point, elle ne put retrouver maintenant, bien qu'elle ne put retrouver maintenant une heure qui ne fut pas marquée par une illusion brisée et une amertume secrète, la comtesse de Ferréole n'avait pas complètement arraché de sa vie comme une branche mauvaise, l'homme dont elle portait le nom. Ce n'était pas l'espoir qu'on garde malgré soi de réconciliation prochaine. L'instinctive pitié qui empêche de détourner à jamais la tête. L'amour qui persiste ainsi qu'un ferment inguérissable dans l'âme la plus ulcérée. Madame de Ferréole portait des robes de veuve et ne songeait ni à pardonner, ni à revenir sur le passé. Les lettres courtes qu'elle écrivait à son mari avaient une dignité froide et calme, l'apparence d'ordre qu'on dicte à un domestique. Mais malgré les fautes lâches et méchantes du comte, le jugement du tribunal qui le flétrissait, qui confiait à la mère l'éducation exclusive de sa fille Marthe, n'avait pas voulu être aussi inflexible et fermer la barrière qui le séparait désormais de l'enfant. Chaque mois, elle lui envoyait Lise avec sa gouvernante, s'entêtant à accomplir un devoir inutile, ne se rebutant pas parce que les trois quarts du temps, il évitait des visites comme un spectacle où l'on doit bâiller. Seulement, ce jour-là, Madame de Ferréole avait les yeux plus rouges et les joues plus pâles. Et elle capturait sans passionnément dans ses bras, elle cajolait l'enfant qui ne comprenait pas. Elles se ressemblaient toutes les deux. Lise avait les cheveux blonds, fins comme de la soie fine, les prunelles veloutées, un peu tristes sous les grandes cils noirs qui les teintaient d'une ombre vague, la bouche petite de sa mère. Elle était comme le reflet encore incertain de ce qu'elle avait été avant d'endurer ce martyre de tous les instants, de son élégance mièvre et délicate de parisienne, du charme subtil qui se dégageait aussi bien de ses toilette que de ses regards et de sa voix claire. Elle n'eut que 12 ans, elle était presque une amie pour Madame de Ferréole. Elle emplissait sa solitude de jeunes, de gais, d'heureux, qui l'aidaient à reprendre des forces artificielles, à se résigner, à ne point s'ensevelir dans sa douleur torpide et morne. Elle ne se quittait que les jours rares où l'on conduisait Lise chez son père. L'enfant était toute son adoration et toute sa vie, et elle défaillait, elle frissonnait à l'idée qu'il pouvait l'emporter tout à coup comme une proie, la ravir, lui ravir le seul être au monde qui la combla et la consola de vivre. Après avoir traîné son nom aux quatre coins de Paris, ramassé des maîtresses passagères, tantôt dans les coulisses des petites théâtres, tantôt sur les boulevards, le comte Hubert de Ferréole se sentait vieillir, parvenu à cet âge de lassitude molle, où l'on rend dans le cou comme une bête fatiguée au jour du joug que présentement des mains de femmes plus blanches et plus impérieuses que les autres s'étaient engluées aux jupes de Simone au Braillot. Simone n'était plus la troublante artiste qui, avec sa figure fruste de bohème, l'étrange toile de ses gestes et de son accent, l'étrange folie, ce mélange de langueur hésitante et de canaillerie vicieuse avait soulevé tant de fois au gymnase le public enthousiaste, rien qu'en dénouant brusquement sa crinière noire et épaisse, en se roulant aux genoux de l'amant infidèle, qu'elle veut retenir quand même, arracher la préférée dans La Roche Noire, cette admirable comédie-pièce de Sardol. Non, elle avait abandonné les planches et battu en retraite prudemment avant de perdre la dernière partie, avant de s'en aller. Et le repos l'emportait. Étendait comme un vernis vulgaire sur ce masque tourmenté dont aucun peintre n'était parvenu à rendre l'impression changeante. Ils furent comme deux chaloupes usées dont les ancres jetées à la fois dans l'eau vaseuse du port se seraient accrochées. Cette liaison durait depuis 3 ans. Ils demeuraient tous dans le même appartement. Le comte l'accompagnait aux premières et au bois. Et lorsqu'il voyageait de ville d'eau en ville d'eau, il inscrivait sur les registres d'hôtel comte et comtesse de Ferréole. Marthe, dédaignant de sonder à nouveau la boue où d'abord elle avait sali ses mains enfiévrées, ignorait cela. Cependant, le couple avait loué pour l'été un chalet à Cabourg, et Simone s'ennuyait comme à une pièce triste. La grande monotonie de la mer, l'immuable retour du flux et du reflux, les vastes ciels gris où planent des goélands, l'aventureuse fuite des voiles qui s'enfoncent, on ne sait où, vers l'horizon brumeux, exaspérait ses nerfs. Elle n'en comprenait ni la douceur profonde et reposante, ni la mélancolie calme qui berce et qui apaise. Elle compte les jours. Elle n'est même pas au casino. Est-ce que tu n'as pas une fille? Demanda-t-elle un soir à M. de Ferréol, d'une voix somnolente. Si, pourquoi? Répondit-il étonné de cette question brusque. Ben, tu devrais bien la faire venir. Ça m'amuserait tant de jouer à la maman. Le comte inclina la tête et n'opposa aucune objection à ce caprice malsain contre lequel il eût dû se cabrer comme un cheval dont on tire trop la bride. Il en était arrivé à ce point de décomposition morale, de torpeur absolue, que la diversité des sensations bonnes ou mauvaises échappait à son cerveau, qu'il eût commis n'importe quelle vilenie sans s'en apercevoir, sans en scruter la portée, qu'il n'avait plus au cœur le moindre remords, le moindre sentiment familial et honnête, un peu plus, un peu moins. Tendre le front de sa fille aux lèvres maquillées d'une cabotine retraitée, comme il avait galvaudé le nom intact de sa femme, que lui importait? Pourvu que Simone reprit sa gaieté, sa grosse gaieté, assoupie et interrompue. Quelques jours dorés, et il a ramené Lise avec sa gouvernante. Madame de Ferréol avait longuement hésité et repoussé son mari avec une dureté hautaine. Puis les suppliantes prières de l'enfant que grisait la joie d'un départ de vacances au bord de la mer, les promesses jurées par Hubert, qui ne quitterait pas un instant sa fille, qu'il écrirait chaque jour, l'assurance menteuse qu'ils étaient invités par des parents, leur cousin de ses gonzacs. Il avait triomphé de ses doutes inquiets et de sa volonté infrangible. Lise donc devait revenir au moins au bout de 3 semaines. Elle fut d'abord étonnée par tout ce nouveau qu'elle surprenait, par les mots ignorés qu'elle entendait, par cette femme inconnue qu'elle voyait embrasser son père, par le désordre de cette maison lâchée qui ressemblait si peu au calme logis de Madame de Ferréol. Simone lui faisait peur, sans qu'elle sût pourquoi. Elle avait envie de se sauver, d'entraîner sa gouvernante vers la voiture qui partait le matin chargée de mal et de voyageurs. Mais l'actrice l'apprivoisa bientôt comme un oiseau heureux. L'étourdit, l'enveloppa de gâteries bruyantes et factices, reprit à rebours l'éducation austère ébauchée par Marthe. Elle joua avec l'enfant qu'on lui livrait complaisamment comme avec une poupée. Elle lui infiltra sa corruption maladive, la modela sur elle, la transforma lentement en une de ces gamines aux allures équivoques qui traînent parfois dans un salon de cocotte et délaissent leurs joujoux inutiles pour mendier quelques cadeaux ou couper la conversation d'un mot gouailleur d'enfant terrible. Et ils riaient à se débrancher, le père et la fille maîtresse, des réflexions imprévues de Lise, des gestes de Simone, des couplets libertins de café-concert qu'elle annonçait d'une voix tremblante et fine, et de ces phrases d'argot qu'elle répétait sans en deviner le sens. Il trouvait cela très drôle, et le comte de Ferréol s'écriait, en allumant son cigare à la cigarette de Simone, « Est-elle assez dans le mouvement, cette petite? » La gouvernante que Hubert avait achetée au début se tenait discrètement à l'écart. Lise pleura beaucoup quand on la sépara de maman Simone. Et elle eut comme un frisson de révolte et d'ennui en apercevant sur le quai de la gare la robe noire de madame de Ferréol. Elle embrassa froidement sa mère, ainsi qu'une amie qu'on ne reconnaît pas tout de suite. Madame Marthe ne remarqua pas, tant elle était heureuse de retrouver son enfant. Mais l'illusion ne fut pas longue. Tout de suite, avec son instinct aigu de mère, elle flaira quelque chose d'insolite. Elle douta des affirmations anciennes de monsieur de Ferréol. Elle comprit qu'il lui cachait, elle ne savait quoi, de plus douloureux encore que tout ce qu'elle avait supporté jusqu'ici. Il lui semblait que son hallucination effarée, qu'on lui avait volé sa fille, que cet enfant détraqué n'était avec une ressemblance mensongère avec le sien, avec sa petite Lise, aux prunelles si candides, aux naïvetés si chastes. Que s'était-il donc passé là-bas? Dans quel milieu l'avait-on souillée ainsi? Où avait-elle appris ce qu'elle disait à présent? Elle devenait folle. Elle ne dormait plus, torturée par ce doute, désolant par ces angoisses inépuisables. Et rien pour lui dévoiler ce secret. Monsieur de Ferréol, qui ne répondait pas à ses lettres affolées, la gouvernante qui se refusait à parler, Lise qui montait et qui mentait dans la crainte de ne plus revoir maman Simone. Pendant 8 jours, elle endura ce supplice. Elle se heurta vainement aux uns et aux autres, par tous les moyens, par toutes les menaces de connaître la vérité. Enfin, un matin, comme elle questionnait encore l'enfant avec une colère sourde, celle-ci lui répondit en geignant, tu sais, c'est pas rigolo ta baraque. Je voudrais bien retourner chez maman Simone. et elle se lamenta. Elle raconta combien on s'amusait à Cabourg, combien on riait avec le piano toujours ouvert, la table toujours servie, entre M. de Ferréol et Mme Simone, qui lui achetaient des jouets et des gâteaux, qui se faisaient des farces tout le temps. Il dit, je veux retourner chez Maman Simone. Machinalement, Madame de Ferréol, pâle comme une morte, les paupières élargies par une lueur effrayante de folie, épingla machinalement son chapeau, prit en se cachant un objet dans un tiroir, habilla Lise et murmura d'un ton rauque, « C'est bien, puisque tu le veux, je te ramène chez elle. » Le comte se dressa stupéfié lorsqu'il la vit entrer, tenant sa fille par la main, dans le salon où il causait avec Simone, sur un canapé. L'actrice eut malgré elle un mouvement de recul. « Vous ici ?» s'exclama-t-il. Alors Marthe, se dégageant, montra l'enfant à son mari sans prononcer une parole de mépris ou de haine. Et à bout portant, avant qu'il eût pu l'arrêter, lui tira en pleine poitrine deux coups de revolver. Madame Monsieur de Ferréol battit l'air de ses doigts crispés et s'effondra comme une masse sur le tapis. Simone Braillot, affolée de terreur, s'était sauvée dans l'antichambre en criant. Et la comtesse immobile contemplait le cadavre secoué par l'agonie. Élise, épouvantée, tremblait, disant machinalement son exclamation accoutumée, « Oh, c'est pas rigolo !» Voilà pourquoi Madame la comtesse Marthe de Ferréol passera aux assises prochaines de la Seine.